Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Alors Jacques, chapitre 1, versets 1 à 18. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.
Vous avez déjà vu des pêcheurs qui pêchent à la ligne? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu des pêcheurs qui ne mettent pas d'hameçon pour attraper les poissons, qui ont une canne à pêche et juste un fil? Vous avez déjà vu? Ben, il n'y a pas beaucoup de poissons qui viennent. C'est un peu la même chose que lire la Bible sans compter sur l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y aura pas beaucoup à manger. Mais en comptant sur l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes conscients et contents de savoir qu'il œuvre dans nos cœurs aujourd'hui encore. Alors nous continuons notre cheminement dans l'Épître selon Jacques, de Jacques. Et nous arrivons au verset 12 à 18. On a lu depuis le verset 1 pour qu'on ait de nouveau un peu le contexte. En relisant ces versets, ça vous a rappelé peut-être ce qu'on a déjà vu ensemble, plusieurs éléments qui sont vus. Et donc nous allons ici dans ces versets 12 à 18 pour aujourd'hui. J'aimerais vous donner tout de suite une clé de compréhension pour ce que Jacques nous enseigne ici. Et cette clé de compréhension, c'est de comprendre qu'une même situation peut être vue de deux angles différents. Une même situation peut être vue de deux angles différents. Et le premier angle, c'est ce que je vis là me tente pour faire le mal. Ça, c'est une façon de voir. Ce que je vis me tente pour faire le mal. Et le deuxième angle, ce que je vis m'éprouve pour me faire grandir dans la foi. Ce que je vis m'éprouve pour me faire grandir dans la foi. Et c'est la même situation, avec deux éclairages. Et ça, c'est un élément important à avoir quand on lit ce texte ici de Jacques. Et donc la même situation, mais une façon radicalement différente d'y faire face ou de le recevoir. Une façon de voir conduit, on pourrait dire, à devenir pire, et une façon de voir conduit à devenir meilleur pour une même situation, vécu. Un exemple, par exemple, vous avez un accident, donc c'est fictif, hein. Je ne le souhaite à personne, évidemment. Mais vous avez un accident, un chauffard vous fonce dedans et vous avez une jambe cassée qui vous empêche de travailler la semaine prochaine et de partir dans des vacances de randonnée la semaine suivante. La première façon de voir amène l'amertume, la colère contre ce chauffard et la rancœur et même l'accusation contre Dieu qui aurait quand même pu actionner son bouclier géant devant la voiture pour qu'elle s'arrête juste avant moi afin que je n'aie rien. Quand même, il peut tout faire Dieu. Ou, deuxième façon de voir, qui amène en fait à la paix, à l'acceptation, voire même au désir de voir le chauffard se repentir pour qu'il soit libéré de sa culpabilité. Et même remercier Dieu pour la patience apprise, le contentement développé et d'avoir l'âme tranquille et heureuse malgré la déception. Deux façons de voir différentes. Nous avions déjà parlé, en commençant avec Jacques, que les épreuves nous font grandir, nous font progresser dans, vous savez dans quoi? Vous vous rappelez? Exact, dans la patience, hein. C'est ce qui était tout au début, là, hein, si vous regardez Jacques, c'est bien d'avoir vos Bibles ouvertes, toujours d'aller vérifier et de suivre. Donc, chapitre 1, verset 2, on voit cette notion que, et verset 3, hein, qu'il souligne cette patience. Et nous allons pas revenir sur tous les détails qu'on a déjà vus, hein, par rapport à ce sujet-là. Mais, qu'est-ce qui fait que nous agissons d'une manière ou de l'autre? Que j'ai présenté tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on réagisse comme ça ou comme ceci? Ou comment entrer dans le chemin pour devenir meilleur? Ou pourquoi suivons-nous souvent le chemin qui mène au mal? Eh bien, je crois que le texte que nous allons étudier ce matin nous donne des indications précieuses et utiles à ce propos. Alors, observons ce que nous avons déjà pu retirer dans les premiers versets de cet épître. Vous vous souvenez que Jacques commence en parlant d'épreuves, ces épreuves qui nous testent, qui nous affinent, qui purifient, qui produisent la patience. Et il disait même qu'on devait voir ces épreuves avec une joie parfaite. On avait vu ça, je ne vais pas tout redévelopper maintenant. Hein, ici. Vous vous souvenez peut-être que dans ce contexte, Jacques, quand on continue le texte, souligne le besoin de sagesse. Parce qu'en fait, pour réagir d'une bonne manière dans l'épreuve, il y a a besoin d'une bonne dose de sagesse, vous êtes d'accord avec moi? Quand on est dans une situation difficile, si on n'a aucune sagesse, ça part pas dans la bonne direction. On pourrait même dire jamais. Il y a besoin de sagesse. Et il nous indique comment la demander. En étant pleinement motivé à vivre ce que Dieu demande, en cherchant à persévérer dans ce qui lui plaît, même si ce n'est pas facile. Pour résumer un peu ce qu'on avait vu ensemble. Puis ensuite, Jacques explique que celui qui est dans une condition humble et le riche ont des moyens de réagir face aux épreuves ou tentations qu'ils ont. Et dans les deux cas, c'est leur raison de se glorifier qui va forger une base solide face à l'épreuve. Puis on a vu que celui qui est dans une condition humble ne se glorifie pas de la même chose que celui qui est riche. Et c'est pour chacun une base solide pour faire face aux différentes tentations et épreuves qu'ils vivent. Et voilà le verset 12. Le verset 12 qui dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et là, il va développer des indications que nous allons chercher à comprendre aujourd'hui. Premièrement, il nous parle de Dieu. Il nous parle de Dieu ici. C'est un élément important de comprendre qui est Dieu, ce qu'il fait, qu'est-ce qui le motive. Ça sera notre premier point. Ensuite, il nous parle de nous. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur quand il y a des situations d'épreuves, de tentations, etc. Ça sera notre deuxième point. Et il parle de l'œuvre de Dieu en nous. Ça sera notre troisième point. C'est assez simple, hein. Donc, premièrement, Jacques parle de Dieu. Je lirai juste les versets 13, 16 et 17, puisque c'est surtout sur ces passages qu'on s'arrête ici, où il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Puis là, on voit verset 16 qui dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc un élément qui est déjà très clair dans ce texte, je pense que c'est clair pour tous parce qu'on l'a entendu, Dieu ne tente personne. Oui, Dieu éprouve. C'est là que c'est un peu troublant des fois. Mais Dieu ne tente personne, Dieu éprouve. On va voir la différence ensemble. Il corrige pour faire progresser, pour faire grandir en sainteté. Oui, ça Dieu le fait. Il éprouve, il corrige pour faire progresser et grandir en sainteté. Mais il ne tente pas pour faire tomber dans le mal. Il ne tente pas pour faire tomber dans le mal. C'est parfaitement clair. C'est vrai que parfois Dieu juge et envoie des malheurs qui annoncent le jugement final, qui sera à ce moment-là définitif pour ceux qui rejettent Dieu. Ces jugements sont justes. Il ne s'agit pas de tentation dans ces situations-là. C'est des jugements. Le terme « tenter » ici, en fait dans ce texte, avec le contexte, signifie « pousser » ou « inciter à faire le mal ». Quand on dit que Dieu ne tente pas, c'est cette tentation qu'il est question ici. Hein? « Pousser » ou « inciter à faire le mal », cela s'apparente, on pourrait dire, à la manipulation qui de faire quelque chose, de faire quelque chose à l'insu de cette personne. Et ici, pour son mal. En fait, Satan ne fait que ça. Il ne fait que ça. C'est sa spécialité. J'irai même plus loin. C'est sa nature, sa raison de vivre, sa motivation. Faire du mal aux hommes et faire pratiquer le mal. Jamais Satan ne fera du bien. Jamais. S'il y a un semblant de bien, c'est parce qu'il y a un mal derrière. Jamais. Satan ne fera du bien, il en est d'ailleurs incapable et il ne le désire pas. Et si vous ne le pensez pas, c'est que vous croyez en ses mensonges. Il séduit toujours pour la perte de l'homme, et cela dès le jardin d'Éden jusqu'à maintenant. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Dieu est tout le contraire. Il est saint. Ce qui signifie que le mal n'existe pas en lui. Il n'y a aucun moyen pour n'importe quel hameçon de trouver une accroche en Dieu avec du mal en lui. C'est impossible. C'est impossible. Si vous voulez une image, on pourrait dire qu'il n'a aucun angle en Dieu. Il est parfaitement lisse, rien peut s'accrocher. Donc cette notion, il n'y a pas d'angle, il est parfaitement lisse. Rien peut s'accrocher. Le psaume 5 souligne clairement que le mal n'a aucune place en Dieu. Il dit ceci dans psaume 5, verset 5, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, le mal ne séjourne pas auprès de toi. » En fait, si le mal n'a aucune place en Dieu, il ne peut être tenté par le mal. Ce qu'on verra tout à l'heure. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur pour que la tentation puisse être effective. Par contre, c'est vrai que Dieu peut être tenté de juger, d'exercer son jugement. C'est vrai, ça. C'est pas la même tentation. C'est pas la tentation de faire du mal. Ça, c'est impossible. Il y a aucun mal en Dieu. Mais il peut être tenté d'exercer son jugement face au mal. C'est ce que Paul souligne dans 1 Corinthiens 10. Et dans ce texte qu'on va apprendre, il continuera aussi en expliquant que nous sommes tentés parce que nous sommes humains. Des humains qui sont dans une situation déchue, donc tous les humains qui sont dans la situation de déchue, de la chute, sont tentés. Et non seulement Dieu ne tente pas à faire le mal, mais lorsque nous sommes tentés, il est encore dit dans ce texte, il promet de ne pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. On va lire le texte. Donc là, Jacques, vous pouvez le garder, on y reviendra. Et on va dans 1 Corinthiens 10, on lit à partir du verset 9. Donc là, on est dans le contexte où l'apôtre Paul reprend un peu l'exemple de ce qui s'est passé dans le désert avec les Israélites, qui vivaient parfois de manière à provoquer Dieu, on pourrait dire. Et puis ici, il dit ceci, « Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. » Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, pour nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Rappelez-vous la clé que je vous ai donnée tout au début de la prédication. Comprendre qu'une même situation peut être en fait vue sous deux angles différents. Le premier angle, c'est de se dire « ce que je vis me tente pour faire le mal ». Ou bien le deuxième angle, « ce que je vis m'éprouve pour me faire grandir dans la foi ». Dieu ne va jamais agir selon le premier angle. Jamais. Nous le verrons dans le deuxième point, qu'est-ce qui nous amène à faire le mal ? C'est jamais Dieu. C'est un élément important. Dieu agit toujours selon le deuxième angle. Il l'éprouve pour nous faire grandir dans la foi, grandir dans la sainteté, grandir dans la ressemblance à Christ. C'est pas toujours facile à comprendre parce qu'on est dans une société qui veut pas de souffrance, qui veut être dans une situation confortable. C'est les éléments clés. Alors que les éléments clés de la parole de Dieu et de Jacques en particulier, c'est « nous voulons la sainteté ». Même s'il y a de la souffrance, même s'il y a de l'inconfort. Et Paul l'explique quand même assez clairement dans Romains 8, 28 et 29. Je dis toujours, lisez jamais le verset 28 tout seul. Prenez toujours le verset 29 pour que ça soit toujours clair. C'est un verset très connu qui dit « nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Ça c'est le verset 28. Et le verset 29 qui continue, « car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Donc, toutes ces choses qui concourent au bien, c'est pour que nous devenions semblables à Jésus-Christ. C'est ça notre bien. Et vous savez quoi ? Dieu est même capable de transformer le mal en bien. Il est capable de faire ça. Joseph le dit à ses frères dans Genèse 50, le verset 20, assez clairement, vous aviez formé des projets de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Dieu peut transformer le mal en bien, et Dieu ne fait jamais l'inverse. Et Dieu ne fait jamais l'inverse. Transformer le mal, le bien en mal, jamais, ce serait contre sa nature. Jacques, dans les versets 16 et 17, ici, nous apporte encore un autre élément. Il indique que Dieu ne donne que de bonnes choses. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, tout don excellent, tout cadeau parfait viennent d'en haut. Il vit dans la lumière du Père des Lumières, c'est le suivant, Il n'y a donc aucune ténèbre qui peut pénétrer en lui. Et pour qu'on le comprenne bien, il continue par dire qu'il ne change pas. Il est immuable. Donc le fait qu'aucune ténèbre ne peut le pénétrer, c'est pas juste du passé. C'est aussi de l'avenir. C'est tout le temps. Vous savez, Jacques, il parle des épreuves ici. Et il est conscient que les situations peuvent être difficiles. Et il veut que ses lecteurs comprennent que si les situations peuvent être vues sous deux angles, à notre niveau, on peut le voir sous ces deux angles, Dieu n'a jamais d'intention maléfique. Il agit toujours avec justice, droiture, de façon sainte et parfaite. Et ça, c'est important de se le rappeler. Aussi quand on est des moments où on n'est pas dans les épreuves, pour qu'on puisse s'en souvenir lorsqu'on est dans les épreuves. En fait, Dieu est trop saint pour tenter à faire le mal. Il est trop bon pour tenter à faire le mal. Je vais vous faire une petite gymnastique de cerveau, là, vous êtes prêts? C'est très court, une boule de glace, ça va jusque là? Est-ce qu'elle va fondre si je la mets dans une fournaise ardente où un feu brûle à 1000 degrés? Vous avez compris l'idée ou bien? Une boule de glace, je la mets dans un feu ardent, est-ce qu'elle fond? Eh bien, figurez-vous que la possibilité que cette boule de glace ne fonde pas, est bien plus grande que la possibilité qu'il puisse y avoir un quelconque mal en Dieu. J'ai dit qu'il y a une gymnastique là. Donc, le fait que cette boule fonde, cette boule de glace, vous dites, mais évidemment. Mais le fait qu'elle fonde pas, tu dis, mais c'est possible. Non, c'est impossible. Eh bien, le fait qu'il y ait du mal en Dieu, c'est encore bien plus impossible. Comprendre que Dieu voit toujours toutes les situations que nous vivons sous cet angle, ce que je vis m'éprouve pour me faire grandir dans la foi, et jamais ce que je vis me tente pour faire le mal, nous rassure en fait. Elle nous dit que toute situation que nous vivons, c'est une situation où Dieu ne nous veut pas de mal. C'est vraiment important à saisir. Et cela nous motive à nous tourner vers Dieu pour trouver en lui la force, la grâce, la foi nécessaire pour traverser les épreuves. Les épreuves qui vont nous donner plus de patience, qui vont nous permettre de grandir notre foi, de l'approfondir. Et pour tous ceux qui ont passé par des épreuves, ce qui est quasiment le 100% ici, je pense, plus ou moins grande, hein, eh bien, on se rend compte que c'est ça qui nous a fait grandir. On ne les cherche pas, les épreuves. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que Dieu les utilise pour nous faire grandir dans la patience, dans la foi. Si vous voulez une liste, vous pouvez prendre Galates 5, 22. En fait, tout le fruit de l'esprit y passe quand on est dans ces situations-là. Bien. Mais alors, pourquoi péchons-nous? Comment est-il possible que des épreuves nous fassent tomber dans le péché? Comment est-ce possible que le monde, Satan, arrive à nous faire pécher? Eh bien, c'est notre deuxième point, j'y arrive. Hein? Donc, Jacques parle de nous. En verset 12, déjà, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » En verset 14, « Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme, engendre l'amour. » Or Jacques commence par le verset 12. Je trouve fabuleux en fait, il veut nous encourager. On va pas tout de suite voir les choses difficiles, on va d'abord voir des choses qui sont magnifiques. Il parle de celui qui endure la tentation. C'est possible. Il donne une direction, il parle de quelque chose qui nous stimule, et une direction qui nous encourage à prendre parce que les conséquences nous sont très favorables. Hein, le verset 12. Donc là, je m'arrête là, j'ai des amis, ils ont fait une prédication complète juste sur le verset 12. Je dis, bon, est-ce que j'en fais une juste sur le verset 12? Je me dis, non, vous méditerez sur le verset 12 à la maison. Mais c'est important de saisir cette notion. Car on va maintenant parler de ce qui fait pourquoi nous péchons. Quelles sont les habitudes que nous avons besoin d'éliminer quelque part? Alors, si on regarde le verset 14. Regardez le verset 14. Qu'est-ce qui attire et séduit? Est-ce que c'est Dieu? Si on regarde le verset 14. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu? Or, j'espère que dans vos têtes, vous avez une phrase qui dit, mais pas du tout! Pas du tout! Cela vient de notre propre convoitise. Ça vient de notre propre convoitise. On pourrait aussi dire de notre chair, hein, ce que le péché a endommagé en nous et qui se laisse attirer par le péché. En fait, le terme traduit par séduction ici suggère une séduction exercée par un appât tendu. En fait, c'est l'illustration de l'hameçon du pêcheur. Savez-vous que les pêcheurs de poissons sont de grands menteurs? Des grands séducteurs habiles, et ils connaissent leurs victimes, et plus ils arrivent à les tromper, meilleurs ils sont. C'est pas d'autres personnes, c'est des poissons, je vous rassure. Hein. Et puis au niveau éthique, si jamais Jésus a dit à Pierre d'aller pêcher, donc pour les pêcheurs parmi nous, n'ayez pas peur de cette illustration. Ils préparent des leurres, et font croire à leurs poissons que ce sont de succulents repas qui leur sont proposés. Alors que souvent, c'est même pas comestible. Si vous avez déjà fait un peu de pêche, vous vous rendez compte que ce qui est utilisé, c'est même pas comestible par le poisson. Mais le poisson est tellement persuadé qu'il a devant lui la meilleure friandise du monde, qu'il ne fait qu'une bouchée. Et en fait, cette illusion cache un hameçon qui n'est pas une illusion. En fait, le pêcheur adapte même l'appât au type de poisson. On n'utilise pas le même appât pour tous les poissons. Si vous n'avez pas fait de pêche, ben voilà, vous apprenez quelque chose. Donc, c'est adapté au type de poisson, à sa grandeur, parfois même à la météo du jour. Hein, un jour de pluie, vous n'allez pas pêcher à la mouche, par exemple. Ben voilà, je vais pas vous faire un cours de poissonnerie ici. Mais on peut dire qu'il cherche le point faible de la gourmandise de ses victimes pour être sûr qu'il morde à l'hameçon. Okay. Donc ça, c'est le pêcheur hein, qui adapte l'appât au type de poisson, qu'il cherche à trouver le point faible de la gourmandise de sa victime. Mais c'est exactement ce qui se passe dans nos vies face au péché. Nos points faibles de la gourmandise de poisson, ce sont nos propres convoitises. Nous ne sommes pas lisses comme Dieu, hein, l'image que j'ai donnée avant. Nous avons beaucoup d'aspérités sur lesquelles on peut s'accrocher. Et alors, si nous sommes surpris par une faute, qu'est-ce qui se passe? Alors là, si j'avais des enfants dans un camp que j'avais enseigné, ils diraient « Ah ben, c'est le jeu du blâme !» Vous connaissez le jeu du blâme? Ah, il y en a qui connaissent, hein, bien sûr, il y en a qui connaissent ici le jeu du blâme. Alors, je vais pas vous faire toute la théorie du jeu du blâme. Je vais juste vous donner les différentes cases par lesquelles on peut passer. Hein. C'est un jeu très connu, qui passe par la case mensonge, par exemple. Ah non, j'ai rien fait.
D'accord. T'as encore la main toute rouge parce que tu as cassé la fenêtre en tapant dedans, mais non, j'ai rien fait.
La case prétention, que ce n'est pas ta faute. La case recherche d'excuses. Ou encore la case cachée, en espérant que personne ne le découvre. Pour enfin utiliser la case du blâme. Blâmer les autres pour nos mauvais choix. C'est un jeu terrible qui est très souvent joué. Et Jacques l'a en tête.
Il va me dire, comment je peux savoir qu'il a en tête le jeu du blâme, notre ami Jacques ici? Hein?
Eh bien, simplement parce que il dit clairement que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. C'est le jeu du blâme. C'est Dieu. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé dès le premier péché. Dès que Dieu a confronté Adam avec son péché, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Souvenez-vous ce qu'il a dit?
L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné l'arbre et j'en ai mangé.
C'est un double blâme, hein? Je sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est un double blâme. Ce qui est le blâme très connu, c'est qu'il a dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Ok, c'est connu ça, ce blâme-là. Ce qui est des fois un peu moins connu, et qui pourtant fait partie de sa réponse, c'est ce qu'il précise, hein. Il dit à Dieu, la femme que tu as mise à côté de moi. Ce qui signifie que c'est quand même un peu la faute de Dieu. Parce que si Ève n'avait pas été là, ben elle ne lui aurait pas proposé de désobéir à Dieu. Donc dans un sens, voilà. Dans un sens, on pourrait me dire que Dieu est responsable. Comme lorsque mon tempérament motivé me fait réagir et dire des choses trop rapidement et dommageables. Mais j'y peux rien, je suis comme ça. Vous me connaissez ou bien? Je suis comme ça. C'est mon caractère. Dieu m'a fait ainsi. Quelque part, je suis obligé d'être comme il m'a fait. C'est terrible, en fait. J'espère que vous comprenez que c'est terrible, ce jeu du blâme. Ce n'est pas une façon responsable de vivre. La Bible ne dit nulle part... Alors, je vous dis, hein, écoutez bien comme ça, si vous le trouvez, vous me le dites, ça m'intéresse. Fais porter la responsabilité de tes actes sur quelqu'un d'autre et tu seras délivré. Vous me dites si vous trouvez, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Mais si vous trouvez, dites-le-moi. Hein, donc, moi je vois, la Bible ne dit pas, fais porter la responsabilité de tes actes sur quelqu'un d'autre et tu seras délivré. Par contre, elle dit autre chose. Elle dit ceci. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion.
Et là, si j'ai les enfants du camp qui étaient avec moi, ils me diraient, ah ben ça c'est Proverbe 28, 13. Parce qu'on les apprend par cœur avec eux, donc c'est sympa.
Jésus dit clairement, ne blâme pas Dieu pour tes péchés. C'est la convoitise qui est en toi qui te fait pécher. C'est ses accroches. Rappelons-nous, hein, Dieu n'a aucune responsabilité pour le mal que nous pouvons commettre. N'entrons pas dans le jeu du blâme. Et soyons conscients que l'hameçon du péché ne peut nous attraper que parce que notre chair nous fait pécher. Donc exerçons-nous à mettre à mort les désirs de la chair en confessant à Christ et quelque part en lissant les aspérités pour qu'il y ait toujours moins d'accroche. Agissons en fait avec une espérance fantastique parce que Jacques nous donne une espérance extraordinaire au verset 18. Parce que j'ai encore pas parlé du verset 18. On y arrive maintenant. C'est notre troisième point. Jacques nous parle de l'œuvre de Dieu pour nous. Et il va se baser là-dessus. Il va nous donner quelque chose de fabuleux ici. Il a dit au verset 18, donc il a parlé de Dieu juste avant, hein, qui est tout don excellent, parfait, vienne d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. En fait, le Saint-Esprit par Jacques veut nous aider à comprendre que le meilleur vient de Dieu. Le meilleur vient de Dieu qui agit par grâce, qui manifeste sa grande puissance et sa bonté à notre égard. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais, à quoi je pourrais faire mention pour montrer la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, quelque chose qui peut nous encourager. Et là, il choisit en fait de parler d'engendrement. C'est le terme ici qu'on a, c'est d'engendrement. En fait, il parle de la nouvelle naissance. Il parle du changement de vie que Dieu opère. Il parle, on pourrait dire, du cœur nouveau que Dieu donne. D'un cœur de pierre que nous avions, sans vie, dur et ignorant, Dieu nous donne un cœur de chair, un cœur qui vit, un cœur tendre, qui se laisse toucher, qui est sensible, qui répond à la grâce par la repentance et la foi. C'est par sa volonté qu'il fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez ces textes dans 2 Corinthiens. Et ça, Jacques nous dit, mais c'est ça que vous êtes. Oui, on parle de ces situations qui sont pas faciles, il y a ces notions d'accroche, de l'hameçon. Mais Dieu change nos cœurs, on a une espérance dans ce qu'il fait. Nous faisons partie de sa famille, nous sommes engendrés par lui en Christ. Nous sommes appelés ses enfants, nous pouvons l'appeler Père. Nous avons un accès privilégié auprès de Dieu. Et lorsque la tentation semble nous pousser vers le mal, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va vers papa! On va vers notre Père Céleste, qui en fait est disponible. Et il vient très volontiers nous donner la force de résister. Je veux dire, tous les papas ici qui ont un enfant qui vient vers lui dire « Papa, il y a un méchant chien là, tu me protèges ?» Débrouille-toi. Bien sûr que non. Il va devant, puis en plus il sait que c'est pas un très méchant chien en plus, et puis il le protège. Puis même si c'est un méchant, vous voyez ? Il y a ce désir, mais Dieu c'est encore plus que ça. C'est pour ça que cet engendrement qui est donné ici, c'est juste fabuleux par rapport à ce que Jacques vient de parler. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire engendrer de Dieu? Je me rends pas totalement compte, mais on peut quand même plusieurs éléments qu'on peut saisir de ce que cela signifie en fait dans cette relation avec lui, dans ce lien fort, dans ce désir de celui qui a engendré de prendre soin de ceux qu'il a engendrés. Cette œuvre de Dieu est excellente et parfaite. Et comment est-ce qu'il fait ça? Parce que Jacques, il dit même comment il le fait. Par la parole de vérité. Jacques souligne ici l'importance de la parole dans ce processus. D'ailleurs, vous verrez dans la suite du texte qu'on va étudier la prochaine fois, ben on se rend plein dans la parole, justement. Il prépare. Jacques, il est un peu par ricochet. Si vous avez commencé à remarquer en lisant le texte, il parle d'un mot, il développe un peu, après il parle d'autre chose, il y a toujours des liens, puis il continue. Puis on arrive dans la parole, puis vous voyez, il va continuer. Mais ici, il dit d'où ça vient, par la parole. Et c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Il a dit, et c'était là. Et c'est aussi par la parole qu'il crée de nouvelles créatures. C'est juste fabuleux. Quand il dit que celui qui vient à Christ, il est pardonné, il est enfant de Dieu, c'est fait. C'est sa parole, elle est puissante. Il dit et cela s'accomplit. Et cette parole, eh bien, il l'a faite écrite dans la Bible que nous avons le privilège d'avoir. Et vous savez qu'une nouvelle création globale est prévue dans l'avenir. Et quelque chose de magnifique que Dieu prépare. Et en fait, chaque personne que Dieu transforme par son esprit, tous ceux qui se repentent pour leurs péchés et croient en Jésus-Christ leur roi, qui le suivent avec ardeur, ces personnes reçoivent déjà l'état spirituel de la nouvelle création. Waouh ! On se dit, bon, il y a encore bien des choses sur cette terre qui nous permettent de nous rendre compte qu'on n'y est encore pas totalement, c'est vrai. Mais en même temps, on a déjà cette notion. Voilà pourquoi Jacques dit que ce sont des prémices de sa création. Les prémices de ses créatures. Alors, lorsque nous vivons des épreuves, des tentations qui nous assaillent, il est tellement important de se rappeler le salut en Dieu. C'est l'élément clé. De se dire, mais on a un Dieu qui nous veut du bien. On a un Dieu qui nous donne la vie. On a un Dieu qui a un évangile, une bonne nouvelle qui nous a été donnée. et nous allons chercher sa présence, de celui qui nous a engendrés, qui sera pour nous un grand réconfort. Un réconfort que je souhaite à chacun ici présent. Nous arrivons à la conclusion assez courte. On a vu trois choses particulièrement ce matin. La première, c'est que il est important de comprendre qu'une situation peut avoir deux angles de vue. Un angle de vue, ce que je vis me tente pour me faire le mal, pour me pousser à faire le mal. Ou bien ce que je vis m'éprouve pour me faire grandir dans la foi. Souvent, on vit un peu les deux choses. Par contre, on est complètement maintenant convaincu, je l'espère, que c'est que le deuxième aspect qui vient de Dieu. Le premier aspect, Dieu jamais ne nous tentera pour nous faire faire le mal. Deuxièmement, saisir que lorsque nous péchons, c'est toujours en lien avec un hameçon qui trouve une convoitise en nous. Jamais la responsabilité de Dieu. Donc là, c'est aussi un élément important. Je lisais un article cette semaine sur un sujet assez sensible actuellement, sujet de la pornographie. Et puis, dans l'article, il disait, mais en fait, c'est peut-être pas la pornographie ton problème. Et c'est souvent autre chose qui est derrière, en fait, qui va hameçonner. Et donc ça, c'est un élément important à comprendre, que l'hameçon va trouver en nous ce qui va nous faire pécher. Et c'est jamais la responsabilité de Dieu. Et troisièmement, comprendre que tout don excellent, tout don parfait viennent d'en haut de Dieu et que notre entrée dans la famille de Dieu est quelque chose de précieux pour nous. Et pour Jacques, c'est tellement précieux qu'il vient l'amener ici pour nous encourager en plein milieu de cette situation où il parle d'épreuves, où il parle de tentations, il parle de situations qui sont pas faciles, on parle de convoitises. Il vient nous dire qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants parce que ta parole nous éclaire. Ta parole nous aide à comprendre que nous pouvons réellement, c'est vrai, avoir des sentiments partagés, parfois même des sentiments opposés dans ce que nous vivons. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que Jacques nous aide à comprendre qu'il y a effectivement une lutte spirituelle. Il y a effectivement le désir du malin, du monde, d'essayer d'accrocher en nous quelque chose pour nous faire dévier, pour nous faire pécher. Et qu'en fait, en même temps, tu es celui qui utilise chaque situation de nos vies pour nous faire progresser. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours le pourquoi. Pourquoi exactement ceci ou cela? Mais nous voulons, Seigneur, te prier de nous aider à saisir le pourquoi, dans quelle direction tu veux nous faire aller. Aide-nous, Seigneur, à être capable de supporter des situations plus difficiles. Non pas les rechercher, tu ne nous le demandes jamais, mais de le supporter avec vaillance, avec grâce, avec courage, en cherchant des moyens aussi pour sortir des souffrances, mais toujours en comptant sur toi, en cherchant à vivre d'une manière qui t'honore, en cherchant à vivre dans cette filiation, dans cet engendrement que nous avons vécu, que nous pouvons vivre dans la joie de t'aimer, de manifester aussi dans nos vies que nous sommes réellement tes enfants. Mais Seigneur, tu vois que nous sommes faibles, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous donnes cette grâce, cette force, dans les situations qui sont parfois longues et pénibles. Et nous voulons compter sur toi. Parce que nous savons que lorsque nous regarderons cela en arrière, dans le futur, eh bien nous verrons, une fois de plus, comme nous pouvons déjà le faire maintenant lorsque nous regardons en arrière, nous verrons une fois de plus ta fidélité. Nous verrons une fois de plus que tu es celui qui ne nous laisse jamais tomber, parce qu'en toi, il n'y a aucun mal. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu fiable. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.